Bonjour, je suis Céline Kallmann. Bienvenue dans le titre à la une. Elle est persuadée depuis toujours de l'innocence de son frère, Xavier Dupont de Ligonnès, accusé d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes en 2011. Christine, sa sœur, prend la parole dans un livre après des années de silence et développe sa vérité. Le 21 avril 2011, il y a presque 13 ans, sont découverts au 55 boulevard Schumann à Nantes, 5 corps. Agnès Dupont de Ligonnès, 48 ans, et ses 4 enfants, Arthur, 20 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans, et le petit dernier, Benoît, 13 ans. À leur côté aussi, les deux labradors de la famille. Tous ont été abattus de 2 balles dans la tête, excepté le plus jeune des fils, Benoît, qui a reçu 3 balles dans la tête et 2 dans la poitrine. Les corps sont retrouvés sous la terrasse de la maison. Un homme est alors désigné comme le suspect numéro 1, Xavier, le père, 50 ans au moment des faits, et que tout accable.
Un avis de recherche international a donc été lancé pour tenter de retrouver le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants à Nantes. Le mobile est encore mystérieux. En revanche, le scénario des faits avant le crime se dessine de plus en plus clairement. Et décidément, ça ressemble de moins en moins à un coup de folie. Au contraire, la préméditation pourrait remonter à plusieurs mois.
Les corps sont retrouvés enroulés dans leurs draps et dans de la toile de jute. Ils sont recouverts de chaux, dans 2 fosses distinctes, creusées sous la terrasse de leur maison. Xavier Dupont de Ligonnès, lui, a disparu, sans laisser de traces. Où est donc passé celui qui est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants? Quel genre de père de famille peut être capable de commettre un tel acte? Dès le départ, pour la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est très clair. Son frère est innocent. Jamais il n'aurait pu faire de mal à ceux qu'il aimait le plus. La sœur cadette du suspect numéro 1 va alors très vite se constituer partie civile pour avoir accès au dossier de l'instruction et ainsi connaître la vérité. Christine et son mari émettent très vite une hypothèse. Xavier n'a pas pu commettre ses crimes. Et l'explication de sa disparition est d'ailleurs. Nous sommes 6 mois après la découverte des corps sous la terrasse, quand Christine prend la parole sur TF1.
C'est une sœur en quête de vérité. Comme toutes les semaines, Christine Dupont de Ligonnès se rend chez son avocat pour éplucher le dossier d'instruction. Un dossier dans lequel elle a trouvé des menaces de mort, ce que réfute le procureur de Nantes. Pourtant, sur la base de ces menaces, elle envisage une autre hypothèse pour expliquer le quintuple assassinat.
Christine Dupont de Ligonnès ne veut en effet pas croire que son frère a tué toute sa famille, préméditant son geste, avant de se volatiliser. Pour elle, tout cela est impossible.
Je penche effectivement pour une sorte de complot. S'ils avaient reçu des menaces depuis plusieurs mois, des menaces répétées, de lourdes menaces selon les termes du procès-verbal que j'ai lu, je pense que plusieurs personnes, je ne sais pas lesquelles, ont fait ce drame épouvantable.
La sœur de l'homme le plus recherché de France à l'époque est persuadée que si son frère avait tué toute sa famille, il aurait pris soin de ne laisser aucun
indice. Si c'était lui, il aurait quand même pris soin de camoufler son départ, de camoufler sa fuite. Il aurait pris des précautions élémentaires auxquelles n'importe qui peut penser. D'éviter les caméras, d'éviter les règlements par carte bancaire, d'éviter tout ce qui peut le signaler.
Selon sa sœur, donc, Xavier Dupont de Ligonnès a laissé des traces volontaires.
La dernière preuve de vie de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est à ce distributeur de roques brunes sur Argence, le 14 avril. Le lendemain, il séjourne dans cet hôtel du Var où il y abandonne sa voiture. Et depuis, plus rien. Suicide ou cavale organisée. Pour les enquêteurs, pas de doute, c'est lui qui a assassiné méthodiquement sa femme Agnès et ses 4 enfants
Nous sommes donc en 2011, quelques mois après la découverte macabre sous la terrasse de cette maison de Nantes. La sœur de Xavier, persuadée de l'innocence de son frère, va pointer du doigt le travail des enquêteurs.
La police a effectué 5 visites domiciliaires et ce n'est qu'à la 5e que les corps ont été trouvés. Je trouve ça très étonnant.
Dans ses explications, Christine Dupont de Ligonnès rappelle l'existence de cette lettre envoyée par Xavier juste après sa disparition. Une lettre adressée à la famille, à des amis et dans laquelle il donne des consignes à ses proches. La lettre est assez longue et dedans, on peut notamment lire ceci. Post-scriptum, inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse au fond du jardin et dans la cave. C'était là, quand nous sommes arrivés ici. C'est justement là que les corps seront retrouvés plusieurs jours après la disparition de la famille. Pour Christine Dupont de Ligonnès, c'est encore une preuve de l'innocence de son frère.
La police dit n'être effectivement ne pas aller d'emblée sous la terrasse. Pourtant, le post-scriptum, c'était vraiment le doigt pointé sous cette terrasse.
Elle développe aussi l'hypothèse que son frère n'a pas pu commettre ses crimes pour plusieurs raisons très claires. Ici, elle s'explique sur France 3, presque un an après les faits.
J'ai vu moi-même la configuration des lieux, la hauteur de la terrasse. Je ne suis pas grande. Mon frère, faisant 1m85, il me paraît totalement improbable qu'il ait pu creuser ces fosses en si peu de temps, tout seul, et retirer des mètres cubes de terre, avec un mal de dos habituel, chronique, qui n'est un secret pour personne. Tous les proches le savent.
Quasiment une année s'est donc écoulée depuis la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. Et Christine reste persuadée que son frère a bien été exfiltré aux États-Unis, comme il l'explique dans la lettre qu'il a laissée après sa fuite.
Je n'ai jamais pensé une seule seconde que mon frère puisse tuer sa famille. Il n'a jamais présenté ce caractère de... Non, ça m'a paru totalement improbable dès le départ. Et avec le recul d'une année, je persiste dans cette position.
Le 16 mars 2013, soit quasiment 2 ans après la disparition de son frère, Christine lui écrit une lettre dans un blog qu'elle a ouvert pour tenter de comprendre l'inexplicable. Mon Xav, le temps a passé depuis que tout s'est déclenché, depuis que nous avons reçu ta lettre et que votre disparition en famille a été annoncée par les médias. Pour Christine, toute cette affaire n'est que mensonge. Les corps, sous la terrasse, ne sont pas ceux de sa belle-sœur et de ses neveux. Car elle en est persuadée, tous sont vivants, exfiltrés aux États-Unis. Bonjour Stéphane Goldenstein.
Bonjour chère madame.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes l'avocat de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine de Verdun, ainsi que son mari Bertram. Vous signez la préface de leur livre « Xavier, mon frère présumé innocent » en librairie ce 13 mars. Vous dites « Dans ce qui va suivre, les faits et les éléments de preuve sont bien réels. Le lecteur pourra ainsi devenir, le temps de la lecture, un juré de cour d'assises. » Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais été retrouvé. Et donc jamais jugé, ce qui permet évidemment de défendre les thèses les plus extrêmes. Cette hypothèse que toute la famille est vivante, qu'elle a été exfiltrée, que Xavier travaille pour un service antidrogue américain, vous la soutenez depuis le début ?
Non, en réalité c'est très réducteur puisque vous arrivez à la conclusion. C'est un peu comme si on regardait Titanic et que vous me disiez que
DiCaprio est mort. Oui, mais le livre fait plus de 300 pages.
Oui, non, mais je sais bien, mais tout le monde arrive à cette conclusion. Mais cette conclusion est difficile à concevoir, sauf lorsque vous lisez bout à bout tous les éléments, les doutes, les incertitudes, les incohérences. Vous vous dites, il n'y a aucune thèse qui est certaine. Et donc, on fait dire à ma cliente qu'elle est quelque part complotiste, mais un complot, c'est lorsqu'on nie la vérité. Et là, le problème de ce dossier, c'est qu'on ne connaît pas la vérité. On a des vérités multiformes. Moi, je ne la connais pas, la vérité. J'ai un certain nombre de certitudes. Celle qui soit coupable, je ne l'ai pas. Mais il est vraisemblablement coupable, il faut être clair. Mais le vraisemblablement ne suffit pas. Et c'est pour ça que je dis dans la préface, devenez juré. Allez, allez le condamner. Allez le condamner avec tous les éléments que j'apporte. Enfin, que Christine et son mari apportent. Allez le condamner avec toutes les incertitudes, les doutes, les explications, la chronologie. Où, quand, comment, pourquoi. Voilà. Vous me répondez à ces quatre questions. Et je vous dis très bien, j'accepte de soutenir que la thèse de ma cliente est absurde.
Il y a des faits très précis dans le livre pour démontrer que l'enquête n'a cherché qu'un seul coupable, Xavier Dupont de Ligonnès. Page 325, Christine raconte qu'aucun membre de la famille n'a été sollicité pour reconnaître les corps exhumés et qu'ils ont été incinérés très vite.
C'est le problème du dossier. C'est souvent comme cela dans les dossiers criminels, quand ça patine au départ, eh bien, on arrive avec ses doutes, ses incertitudes. Et le problème, effectivement, c'est que on a pour se raccrocher que les autopsies. En réalité, donc on a des arguments factuels exposés par les médecins légistes et ma cliente les a examinés, vous vous doutez bien, puisqu'elle est persuadée que son frère est innocent et que la lettre qu'il lui a envoyée est la stricte vérité. Et elle a été regarder les autopsies et elle m'a demandé à moi, avocat, ce que j'en pensais. Et je suis obligé de reconnaître qu'elle a raison. Je suis obligé de reconnaître que ce n'est pas possible. Des différences de taille, des différences de poids.
On va y venir.
Oui, mais c'est essentiel parce qu'il y a l'ADN de l'autre côté.
Alors voilà, il y a les analyses ADN, dont les résultats sont très clairs, incontestables, qui identifient les corps sous la terrasse comme étant ceux de la mère et de ses quatre enfants. Sauf que là aussi, Christine, votre cliente, et son mari émettent une autre hypothèse. Avant son départ définitif de France, la famille a probablement eu une préparation avec une visite médicale, incluant des prélèvements. Ces prélèvements qui auraient donc été disposés sur la scène de crime.
C'est une hypothèse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne connais pas la vérité, c'est une hypothèse. Je sais juste, effectivement, qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ne vont pas. C'est que, a priori, Christine et son mari, et d'autres peut-être de la famille, pensent qu'il y a une substitution d'ADN à un moment donné entre les prélèvements sur les cadavres et l'envoi à l'identité judiciaire.
Mais si ces corps ne sont pas ceux de la famille ? À qui sont-ils ?
Ben, c'est ça le problème, ça. On ne sait pas.
Pourquoi est-ce que l'enquête aurait été maquillée selon eux et ça servirait l'intérêt de qui ?
Moi, j'y crois pas. Ça me paraît tellement invraisemblable qu'on mette 5 corps de substitution pour faire partir toute une famille en témoin protégé à l'autre bout du monde. J'y crois pas. Mais bon, c'est la position de ma cliente qui croit son frère, la lettre de son frère. Mais en revanche, il y a des éléments sur lesquels je suis désolé, je m'accroche. C'est un homme seul, c'est même pas compliqué, c'est un génie du crime. Il n'y a rien. Il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de préparatif. Enfin, préparatif. Justement, il y a des achats en carte bancaire pour justement mettre tout l'accent sur le père de famille. Mais en réalité, quand vous prenez bout à bout les éléments, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais on peut retourner aussi la chose en disant qu'il y a beaucoup d'éléments qui pointent vers une préparation, un crime prémédité. Le fait qu'il ait acheté de la chaux, une arme, des somnifères avant le drame.
Ben non. En réalité, si on les prend isolément, non. L'arme, on nous dit, mais sans certitude, que ça serait la carabine du père qu'il aurait récupérée à son décès au mois de janvier précédent. On n'a pas la carabine, on sait juste la taille des munitions, qui peut correspondre à la carabine, mais ça peut être un pistolet, ça peut être n'importe quoi. Si vous voulez, c'est toutes ces petites incohérences qui additionnées les unes aux autres me gênent. Les outils, il a été acheté une houe lorraine. Une houe lorraine, c'est pour planter des petits rosiers, vous savez. Et on a la trace de Castorama, donc on a la facture. C'est une houe lorraine, je suis désolé, c'est pas une pelle de terrassier, c'est une houe lorraine. Donc est-ce qu'avec la houe lorraine, on fait un trou effectivement, Bertram et Christine ont fait les calculs. Comment c'est possible ? Où est passée la terre ? Mais il faut enlever de la terre. D'abord, il faut l'enlever, il faut être un vrai sportif, un vrai athlète. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on fait de la terre qui reste ? Parce qu'il y a un excédent. Quand vous mettez 5 cadavres et 2 énormes labradors, ça enlève de la terre, vous savez. Et cette terre, on ne l'a pas retrouvée. Et quand j'ai été, moi, dans cette maison, quand on a rendu les clés au propriétaire un an après, vous imaginez bien que je vis rarement dans un état des lieux pour un client. Mais là, je voulais voir de mes propres yeux si c'était possible.
Qu'est-ce que vous avez vu ?
J'ai pas vu de terre. J'ai pas vu de terre au fond du jardin comme ça pourrait être possible. J'ai pas vu de terre dans cette maison. Donc quelqu'un a enlevé la terre et c'est des brouettes et des brouettes de terre. Et je sais pas où elle est, cette terre. Et donc ce qui peut me laisser supposer qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce truc-là. Plusieurs personnes.
Et vous dites qu'on a cherché qu'une seule personne.
Ah ouais. Et pourtant, c'est pas Dieu d'être intervenu très rapidement au mois de mai quand la presse se déchaînait d'abord sur mes clientes en les faisant passer pour des illuminés de la religion. Mais j'arrêtais pas de dire, mais attendez, on part dans une seule direction. J'ai fait mon boulot d'avocat. Ma cliente me dit, c'est pas mon frère, c'est pas possible. Je dis, ok, très bien. Bon, qu'il cherche ailleurs. Et j'ai pas arrêté de dire à la presse, mais regardez ailleurs, il n'y a pas un PV qui fait des recherches pour identifier un autre coupable. Je sais pas, moi, peut-être un des gamins avait un ennemi. J'en sais rien, on n'a même pas vérifié. On n'a même pas vérifié, ça rend fou. Et aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse 13 ans après les faits? C'est même plus prescription, là. C'est l'archéologie judiciaire.
Justement, pourquoi sortir ce livre 13 ans après les faits?
Parce qu'il y avait un excédent de souffrance de la part de Christine et de Bertram avec la version officielle qui est celle d'un père de famille, famille.
Sa théorie, elle l'a depuis le début. J'ai retrouvé des archives où elle parle à TF1 et où clairement elle dit ce qu'elle dit aujourd'hui dans le livre.
Elle dit, alors aujourd'hui elle le dit dans le livre, elle le répète, mais elle démontre pourquoi elle l'a dit à l'époque. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle a repris les éléments du dossier. Elle n'a rien mis sous la moquette, comme un certain nombre de journalistes le font, parce que forcément, ou policiers d'ailleurs, le font parce qu'au bout d'un moment, on arrive à une porte fermée. On ouvre la porte et on enlève ce qui gêne. Et dans ce bouquin, il y a des trucs qui gênent à toutes les étapes de la chronologie de cette histoire.
Mais est-ce que ça gêne pas simplement parce que le corps de Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais été retrouvé?
Donc
ça vous arrange aussi de pouvoir défendre ces hypothèses?
Mais non, mais moi je défends rien, moi je veux juste la vérité. On n'a même pas recherché si quelqu'un en voulait à Xavier Dupont-Ligonnès. Moi, le crime parfait, vous voulez que je vous le donne? C'est effectivement cette famille a été assassinée par quelqu'un, je ne sais pas qui a dit au père de famille d'aller se balader à l'autre bout de la France et en se faisant remarquer systématiquement parce que sa famille a été séquestrée, pris en otage, et le bonhomme fait tout et n'importe quoi pour se faire remarquer, et le 15 avril, il disparaît parce qu'on l'a assassiné et qu'on l'a mis 6 pieds sous terre dans des blocs de béton ou quoi. La couper en morceaux, j'en sais rien. C'est invraisemblable ce que je vous raconte. Mais pourquoi pas? Mais on n'a pas vérifié s'il avait des ennemis. On n'a pas vérifié si les gosses avaient des ennemis. Moi, je sais par exemple que dans le dossier, Agnès, deux copines, à elle, de son groupe de Brière, disent qu'elle se retournait dans la rue, elle avait peur. Elle avait peur de qui, cette femme? Ça n'a pas été vérifié, c'est dingue. C'est dingue. C'est-à-dire qu'ils nous ont pris pour des charlots, dès le début, à dire « c'est pas Xavier ». Et à partir de là, il n'y a pas un policier qui a eu une idée, c'est de se dire, après tout, on va aller regarder s'il y a des ennemis. Il n'y a pas, on ne sait pas.
Est-ce que la sortie de ce livre pour la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, ce n'est pas aussi une certaine manière de faire son deuil, d'avoir un récit plus acceptable pour elle?
Non, mais il n'y a pas de deuil, ils ne sont pas morts pour Christine, vous comprenez?
Elle garde espoir.
En tout cas, moi je garde un espoir, c'est qu'on le retrouve. Parce que c'est lui qui a les vraies réponses, il n'y a personne d'autre.
Qu'est-ce que votre cliente va faire avec l'argent gagné avec ce livre? Parce que je pose la question, on peut imaginer...
Payer son avocat, peut-être.
Payer son avocat, d'accord.
Ça serait une très bonne idée.
Non, parce qu'on a vu que lorsque Society a sorti son enquête, ça s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires en magazine. C'était en rupture de stock. Est-ce qu'elle espère le même succès avec son livre?
En tout cas, moi, j'espère un grand succès. Et c'est pour ça que je viens faire la promo avec vous. Parce que je veux que tout le monde se fasse sa propre religion. C'est bien dit dans un dossier comme ça. Je pense que l'argent sera donné, en fait. Parce qu'une partie du salaire de Bertram, ils sont très catholiques, comme vous le savez. Il fait des dons à des prêtres, à ce genre de choses. Et donc, je pense qu'une partie ira à la charité chrétienne, vraisemblablement. Après, l'autre partie,
vous
peut-être
parlez...
l'avocat, j'ose l'espérer.
Vous parlez de religion, je rebondis là-dessus, puisque votre cliente a été, à un moment, accusée de dérive sectaire.
Oui, alors c'est bien aussi ce livre, alors c'est peut-être un peu long et c'est peut-être pas l'objet du sujet qui intéresse tout le monde, mais ils reprennent point par point tout ce qui a été dit et notamment la partouze chrétienne en 95, ça c'est extraordinaire, c'est né dans les élucubrations d'un esprit dérangé où Christine aurait été jetée en pâture à une quinzaine d'hommes qui l'auraient violée sur l'autel de je ne sais quoi, enfin, mais les gens y ont cru, hein. En se disant, ils sont complètement barges dans cette famille. Ils font des partouzes. Et elle aurait un bébé, elle le dit dans son bouquin. Elle aurait un berceau avec un faux bébé à l'intérieur. Mais tout ça, c'est délirant. Et en fait, et alors ça, je tiens à remercier le procureur de l'époque. Immédiatement, il a dit, il a fait une dépêche, il en faisait régulièrement, en disant, la piste de la secte a été explorée, elle ne donne rien.
J'ai une dernière question. Comment va votre cliente ?
Pour l'instant, elle est obligée de défendre sa position chez certains de vos confrères. Et à chaque fois, ça se passe mal. Parce qu'elle n'a pas le recul que je peux avoir et elle n'a pas, la relativité que je peux avoir moi. Elle est en frontale. C'est-à-dire, elle défend sa thèse et tout de suite, but en blanc, on lui dit « Bon, alors madame, ils ont été exfiltrés, c'est pas les corps. Oh, c'est sérieux quand même, madame ?» Et là, elle est désarçonnée, parce qu'en réalité, elle a fait 350 pages pour expliquer pourquoi elle arrive à cette conclusion. Et elle est désarçonnée, elle dit, ben oui, mais alors je vais vous dire, il y a des éléments. Elle est coincée, moi je peux le faire, c'est très facile en tant qu'avocat. Mais elle, elle va mal. Donc là, elle souffre un petit peu de... Mais elle avait, elle, de toute façon, depuis 2011, elle a une position qui est très difficile à soutenir. Et donc, voilà, elle sait où elle met les pieds. Moi, je trouve que chez Léa Salamé, elle a été très courageuse. Et elle n'a pas été épargnée, j'allais dire, hein. Pas été épargnée du tout. Et c'est pour ça que on va éviter de la remettre trop en frontal, parce que sa position est compliquée.
Je vous remercie beaucoup, Stéphane Goldenstein, avocat au barreau de Paris, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la Une.
Merci.
Et merci à Eva Serraiol pour la réalisation de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la Une pour ne rater aucun épisode. C'est du lundi au vendredi à 18h sur toutes les plateformes de podcast et tous les soirs à 19h30 sur BFM Radio.
Vous avez aimé le titre à la Une ? Découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse aux conditions de don de sperme. Imaginez, après un test ADN, vous découvrez que vous avez des demi-frères et des demi-sœurs partout en France et que vous êtes 27 au total. Chacune et chacun de son côté a fait la même démarche et toutes et tous sont nés grâce à des dons de sperme du même donneur. Cette histoire, elle est vraie, elle est révélée par le journal Le Monde et c'est une première en France. Alors, comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? J'ai posé la question à Tom Kercourt, journaliste à bfmtv.com. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.